positive onde.
Là, on est sur du grès.
Voilà, du grès, ouais.
Une immersion proposée par Seb Dill.
Est-ce que c'est le moment de faire la vanne bon gré, mal gré ou même pas? Trop tard, c'est fait.
Alors non, stop, stop, stop. Ce n'est pas parce que je n'ai pas pu me retenir de faire la vanne que l'on va commencer le reportage comme ça. Allez, on rembobine.
Allez, je prends ces deux pièces. Ma déco, il y a beaucoup déjà des décos de Zélie Roubi.
Positive.
Donc ça fait des années que j'achète ces pièces. Elles embellissent ma maison.
Une immersion proposée par Seb Dill.
C'est une céramiste quand même très performante, originale et créative.
Pour plus d'interaction et pour plus de plaisir, nous profitons d'une journée porte ouverte pour découvrir l'atelier.
Bonjour, bienvenue.
Aujourd'hui, avec Zélie Roubi, nous découvrons plus qu'un métier. Nous découvrons un art, nous découvrons une artiste, nous découvrons un savoir-faire.
Comment elle fait pour faire ce genre de forme, genre vraiment tordue pour, parce que
ça autour, pas autour quoi.
Parce que ça, ça peut se faire autour, mais pas ça, quoi.
Regarde, elle est grande.
Et puis c'est bien lisse, bien joli, bien comme il faut, donc...
Le temps de baisser le son du générique, tout tranquillement, et on découvre ça ensemble.
Je me suis installée en 2010... Et j'ai commencé à me former en 2005. J'étais dans un lycée de céramique à Longchamp, où j'ai passé un CAP de tournage et un BMA de décoration. Et après, je suis allée faire un an de formation à Dieulefi. Dieulefi, c'est un ancien village de Potier, donc il y a une activité céramique importante. Et il y a une formation qui existe depuis peut-être une vingtaine d'années, même plus, à la maison de la céramique de Dieulefi.
Alors je vais partir sur une... j'ai fabriqué une lampe là au Colombin. Donc je sors la terre du plastique.
Et là on est quoi sur la matière assez, enfin, assez meuble quand ça, même c'est... Dans les doigts on peut la travailler un
oui,
petit peu.
Oui, c'est une matière assez molle, voilà, bien plastique. Moi j'utilise un grès chamotté.
Je travaille chamotté dans le centre-ville.
Chamotté. Pas chaboté.
Donc il a un petit grain, ça va lui permettre d'être plus résistant à la cuisson, plus solide pour le façonnage au colombin.
La matière première, c'est de l'argile. Donc il y a différentes sortes d'argile, quoi. On appelle ça de la terre. Il peut y avoir la faïence, donc c'est de la terre de basse température. Il y a le grès, c'est de la terre de haute température, la porcelaine aussi. Voilà, donc moi je fais du grès, je travaille le grès.
Ah ouais, j'aime beaucoup.
Et j'ai commencé assez tôt parce que je faisais partie de l'atelier de sculpture de la Tourette à Tournon-sur-Rhône, où enfant je faisais du modelage en activité extrascolaire, voilà, le mercredi. Donc c'est là que j'ai découvert la terre et puis après c'est des rencontres, je ne pensais pas du tout m'orienter vers ce métier-là. J'avais fait une scolarité assez traditionnelle, quoi. J'ai passé un bac général. Et puis c'est des rencontres, donc la mère d'une amie potière, un copain qui faisait une formation, qui m'a fait découvrir que ça existait aussi. Parce que à 18 ans, je savais pas qu'on pouvait se former à ce métier. Après mon bac, je me suis orientée, j'ai passé un CAP, ouais, après le bac.
Ici, pourquoi c'est pas du tout rond? Comment tu fais pour le faire? Parce que c'est bien lisse, tout ça, on peut pas le faire autour, ça.
Ah non, ça c'est fait au colombin, avec la technique du colombin.
C'est quoi?
C'est des petits boudins de terre qu'on superpose les uns sur les autres, en fait. C'est un peu difficile à imaginer ça, mais je travaille... Strate par strate, je monte en enroulant des boudins de terre les uns sur les autres.
Ah oui, ok.
Ouais, et après, j'efface les traces.
Et les lampes?
Les lampes, c'est pareil.
Mais c'est fin, non, là?
Ouais. Ouais, après, je viens faire des finitions, je viens gratter, affiner.
Ah oui, tu finis, après tu fais les finitions.
Ouais. Moi, j'utilise une extrudeuse pour faire mes colombins, voilà, parce que ça me prend énormément de temps. Avant, je les faisais à la main. Et maintenant, j'utilise cette machine qui est très pratique. Donc là, je prépare le pain de terre. Je peux mettre un pain de terre entier dans l'extrudeuse.
Et là, préparer, ça veut dire en fait le choquer, enfin le balancer sur l'établi en fait.
Voilà, c'est pour qu'il rentre dans l'extrudeuse. Il faut que je le mette en forme, que je le fasse un peu rectangulaire. Voilà. Hop, donc je le prends et je vais le balancer dans la machine. Hop. Alors ça, c'est un super outil aussi pour la fabrication. Donc là, c'est vraiment, c'est comme un piston un peu qu'on va pousser dans une espèce de moule. Et puis, on va sortir le colombin.
Hop. Et là après on se retrouve du coup avec comment le décrire
alors c'est
comme un serpent de terre.
Voilà,
en fait.
Un serpent de terre, c'est ça. Donc,
j'ai des belles images.
Ils font à peu près 80 cm. Donc j'en ai 5 qui sortent à la fois et puis je vais tous les enlever, les mettre de côté et puis je vais pouvoir commencer le travail en fait. Là, il n'y a presque rien qui est tourné à part les miroirs. Hein.
Les miroirs, ils sont tournés.
C'est tout fait au colombin. C'est les boudins de terre, c'est la technique africaine, précolombienne.
Okay.
Les boudins de terre que tu viens superposer les uns sur les autres.
Comme une imprimante 3D.
Voilà. Du bas vers le haut, là, tu gères ta forme comme ça.
C'est ça. C'est des tout petits boudins.
Tu l'as fait au boudin, ça aussi.
Ouais.
Pourtant, c'est bien rond, bien.
Ouais.
C'est dur.
Non, je travaille sans moule. Hein. Il n'y a pas de moule.
Tout à l'heure.
Ouais.
Mais c'est facile ou pas à faire ? Parce que ça
c'est une technique hein, qu'on apprend. Voilà. Plus on pratique, plus c'est facile. Là, je pose donc mes premiers colombins sur une plaque de bois qu'on appelle un rondeau et sur la tournette. Donc la tournette qui va me servir.
La tournette qui, comme son nom l'indique, tourne.
Voilà. Alors là, c'est tout un geste. Il faut voir la forme, strate par strate. On va du bas vers le haut. Voilà, et puis on fait tourner la tournette et on pose le colombin. Voilà, comme une spirale en fait. On s'arrête au bout du colombin et puis on repart avec un autre. Et on tourne.
Il n'y a pas une technique pour faire tourner, je pense, parce que là, il n'y a pas beaucoup de choses. Faire tourner
pendant ça. Non, je fais tourner la...
Je vais tourner la pièce.
La pièce, je prends la planche en bois et je tourne.
Ah oui.
Donc après, je viens les souder entre eux. Voilà, avec les doigts. Hein. C'est tout avec beaucoup avec les doigts. Hop. Après, j'utilise des petits outils comme les steaks. Donc, c'est une petite, comme une carte métallique ou en bois ou en plastique. Ça va nous aider à gérer la forme. C'est un petit outil comme une spatule, en fait. Voilà. Je travaille beaucoup la forme. C'est vraiment ce qui m'intéresse. Le volume, donc j'ai des formes assez rondes, c'est toujours très très rondes, assez organiques, douces. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est le travail de la ligne, de la forme. Donc je passe par des dessins d'abord, j'ai des carnets de croquis, j'ai un tableau noir d'écolier dans mon atelier. Voilà, je fais toute une recherche sur papier. Et puis après, je la mets en œuvre en terre. Je ne suis pas du tout dans le décor pour l'instant. Peut-être qu'un jour, ça me plairait aussi. Mais mes pièces, elles sont souvent très unies pour justement faire ressortir la forme. Le dessin, c'est un peu quand ça me vient. Je ne vais pas me dire, allez, ce matin, je dessine... je peux dessiner en même temps que mes enfants, n'importe quand. Quand ça me vient, voilà. Des fois, j'ai des idées qui arrivent. Je les mets sur papier pour ne pas les oublier. Je ne vais pas les faire tout de suite pour autant. Je peux les refaire dans,
dans des mois, dans des années. Je regarde mes carnets.
C'est un dessin foufoufou, quelle salade. C'est un dessin foufoufou, quelle salade. Un dessin de la laïtou, quelle rigolade. Un dessin de la laïtou.
Après, une fois que ma pièce est un petit peu montée, je vais la laisser tranquille parce que c'est important de laisser raffermir. Ça, c'est la base en fait hein, du travail au colombin. Il ne faut pas être trop pressé. Il ne faut vraiment pas brûler les étapes. Il faut attendre que ça sèche un peu avant de continuer, sinon il y a tout qui s'écroule. Donc là, je vais continuer à travailler sur une autre pièce qui est en cours. Voilà, j'ai toujours plusieurs pièces à la fois. Donc là, j'ai une pièce plus sèche à côté. Je suis en phase de finition, donc la forme est faite. Et donc, je vais venir gratter un petit peu à la surface pour rendre la matière un peu plus homogène. Voilà, j'ai enlevé un petit peu de terre, je gratte. Donc j'utilise les steaks. J'utilise aussi la râpe à plâtre. Je viens enlever de la matière. Alors j'utilise aussi la batte, c'est un morceau de bois, un petit peu arrondi, un peu plat d'un côté, pour gérer la forme, pour tendre les lignes, pour donner un aspect plus tendu. Donc je viens taper un peu, je rentre la terre comme ça.
Est-ce qu'on peut la décrire du coup cette forme que tu as imaginée?
Alors là, je travaille sur un pied de lampe. Je me suis un peu inspirée des livres, des livres pour enfants des années 70. En fait, c'est comme des brins d'herbe. C'est de l'herbe en fait. Je vais l'engober en verre. Voilà, ou des gouttes, ou c'est une pièce tout en longueur avec des comme des gouttes qui remontent vers le haut. C'est assez organique comme forme. Donc c'est tout fait au colombin. C'est un petit peu technique parce que il y a plein d'éléments un peu mis côte à côte. Voilà, donc il y a beaucoup de travail de finition à faire dessus.
Ça, tu l'as fait quand?
Il y a 3 semaines là. Donc ça peut rester en attente si on l'emballe bien.
C'est sec ou pas?
Tu peux venir toucher si tu veux. Tu vois, c'est dur mais c'est encore humide.
Ah oui, c'est encore humide. Ouais. Et ouais. Donc tu vas le faire cuire au four.
Il va falloir. Je vais mettre la couleur et puis je vais attendre que ça sèche.
Et tu attends toujours comme ça 3 semaines ou...
Non, c'est parce que là j'avais d'autres choses à faire.
Mais tu prends combien de temps à peu près? Tu fais le truc, est-ce que tu mets direct au four ou t'attends un peu?
Il faut attendre que ça sèche, que toute l'eau s'évapore.
Parce que
si l'eau elle reste dans la terre et que tu cuis, ça va faire des tensions et ça va exploser. Ça va tout péter dans le four. Ouais. Là, la prochaine étape maintenant, ça va être le séchage. Donc on va attendre plusieurs semaines.
Là c'est l'étape avant le four, avant la cuisson.
Avant la cuisson, voilà, maintenant il va falloir que la pièce sèche. Donc suivant la saison, c'est plus ou moins long.
Donc ça veut dire que si je veux commander une pièce spécifique, je ne l'aurai pas dans 15 jours.
Non, c'est bien plus long parce que en plus, moi, il faut que je remplisse un four entier. Donc il faut attendre aussi d'avoir une quantité de pièces suffisante. Ouais, c'est un travail qui est assez long, ouais.
Travail assez long, mais comme l'on passe de pièce en pièce, il y a toujours des objets qui sont déjà secs.
Là, elle va être prête pour être passée à la couleur.
What's your color? I wanna know. Oh, oh, oh. What's your color? I wanna know. Oh, oh, oh. What's your color? I wanna know, oh, oh, I wanna know, I wanna know.
Là, nous allons engober.
Alors maintenant, cette pièce est prête à passer à l'engobe. Donc j'ai plein de seaux hein, avec mes petites préparations, des seaux étanches.
C'est quoi l'engobe ?
C'est de la terre liquide colorée qu'on met par-dessus. Bah, il y a juste de l'émail en fait là, il n'y a pas d'engobe. Émail, c'est cette couche de verre qui vient recouvrir la pièce.
De verre ?
C'est du verre en fait, hein. C'est silice, feldspath, il y a du kaolin, il y a voilà. Ouais, mais c'est surtout la silice.
Donc ça se vitrifie quand tu cuis.
Ouais, ça se transforme en verre, en couche de verre, ouais.
Okay. C'est pour ça que tu cuis super chaud.
Voilà, pour que ça fonde, ouais.
Et ça c'est pareil.
Ouais, ça c'est maillé, il y a de l'émail, ouais.
Alors pourquoi engobé ? Parce que moi je dirais coloré, colorisé, peinture lurée, soyons fous, mais oui, j'aurais pas dit engobé spontanément.
L'engobe c'est vraiment un terme de céramique, on peint pas une céramique en fait, enfin avec des produits, en tout cas avec des produits adaptés.
Parce que là on va mettre la couleur avant la cuisson.
Voilà, donc on va mettre la couleur avant la cuisson. Avant même la première cuisson, donc ça c'est vraiment de l'engobe, on pose en fait une couche de terre liquide colorée sur la pièce crue. Et après on peut la cuire.
Voilà. Et c'est fait avec quoi par exemple ce verre ?
Et bien ça c'est après, il y a des oxydes métalliques comme le chrome par exemple.
Ouais.
Et puis il y a des oxydes colorants en fait de synthèse.
Oxyde de chrome vert, ok.
Ouais. Tu vois, il y a du cobalt, du fer, du manganèse.
Cobalt, ça fait du bleu.
Du nickel.
Le nickel aussi. Hein.
C'est nickel chrome, quoi.
Ouais, c'est nickel.
Stop. Arrête. Là, c'est nickel. Stop.
Ok, j'arrête.
Et le rose ?
Le rose, c'est des rouges, en fait. Des oxydes de synthèse.
De fer, du coup ?
Non, c'est vraiment c'est de synthèse. Okay. Ouais. Et qui cuisent à haute température,
ouais.
Parce que la haute température, ça cuit les couleurs,
ça fait changer la couleur,
ça les fait disparaître.
Ah oui, d'accord,
okay. Et là, ouais, ça c'est vraiment des colorants qui résistent. Ouais, j'ai tout un tas de colorants comme ça, je fais mes mélanges. Et puis après, je l'applique de différentes manières, des fois souvent pistolet,
ouais.
Nature.
Ah oui.
Mais t'as vachement de constance dans les teintes quand même que t'as. Tu mesures que du coup comment tu colores?
À peu près,
où
ouais.
Tu fais ça à vue de nez.
I could be red, or I could be yellow, I could be blue, or I could be purple, I could be green, or pink, or black, or white, I could be every color you like.
Alors là, je garde mes engobes liquides bien à l'abri de la chaleur. Donc c'est dans des pots étanches. Donc je vais prendre un fouet et je vais bien remuer la matière parce que l'eau est remontée à la surface.
Et là, c'est vraiment une couleur que tu as créée, toi.
Voilà,
c'est ta couleur en fait.
J'ai fait mon mélange, mon petit mélange. Donc là, je suis sur un vert. Je fais beaucoup de vert. Voilà, il faut qu'il ait la bonne consistance parce que après, je les passe dans un pistolet à peinture. Donc je vais le vider mon mélange dans mon pistolet à peinture. Puis après je vais aller dehors parce que j'ai une petite cabine d'émaillage à l'extérieur. Donc ça il faut bien s'équiper, hein, masque, je me mets aussi des vêtements spécifiques. Voilà. Alors là, je pose ma pièce sur une tournette encore à l'intérieur de ma cabine d'émaillage. Et puis, je vais la faire tourner doucement. Et là, je vais appliquer en couche, voilà, c'est fine, régulière, ma couche d'engobe. Allez. Alors, quand je suis contente un peu du résultat... Je choisis d'arrêter, je vois.
Cet assemblage de rose bleu vert là, c'est magnifique. C'est très très beau. Ça c'est des plats. Oh, j'adore.
J'ai toujours fait un peu de vaisselle, donc des bols, des théières, des assiettes. Ça, j'ai toujours une petite gamme de vaisselle. Et là, je travaille donc plus aussi sur le mobilier, donc des tabourets,
des tables d'appoint. Je fais du luminaire aussi, des miroirs, des lampes à poser. Et puis aussi un peu de sculpture, des pièces plus sculpturales. Donc des formes organiques.
J'adore cet effet granuleux, moi.
C'est vrai que c'est bon. Comment tu fais pour faire l'effet granuleux ?
Ça, c'est de la terre liquide chargée en sable et chamotte que je viens appliquer sur la pièce.
Ah, ok.
Ouais,
d'abord, tu fais la pièce et ensuite tu...
Et après, je rajoute la matière et la couleur. Là, je trempe, c'est liquide, en fait,
c'est
genre liquide.
C'est une peinture.
Voilà, mais texturée. Sauf que c'est de la terre. C'est de la terre avec des colorants qui cuisent à basse température. Je le trempe dedans.
Ok.
Ouais. Et après, je reviens tournasser la pièce pour enlever le fond. Ouais.
Mais comment ?
Bah ça chauffe.
C'est de la brique réfractaire ?
Ouais, c'est de la brique isolante.
Est-ce qu'on peut aller voir à l'intérieur ou pas ?
Ben, tu demandes à Zélie si elle...
Hein, on peut aller voir ?
Bah oui, c'est fait pour.
L'outil le plus important, c'est le four. Voilà, sans four, on a rien en fait. On peut avoir juste un four et puis se débrouiller avec rien d'autre. Mais si on n'a pas le four, voilà.
Alors là, on s'est rapproché un petit peu du four, même pas mal. Là, on est vraiment à 1 mètre. Et on voit, il y a un thermomètre. Tu contrôles toujours la température, c'est important pour les pièces ?
Oui, alors il faut contrôler la température parce qu'on note tout pendant la journée de cuisson. On note, on fait un graphique. Donc il y a un pyromètre, une canne pyrométrique qui est à l'intérieur du four et qui contrôle la température. Donc voilà, c'est pour pas aller trop vite non plus parce que ça peut faire du dégât. Et aussi, donc comme ce pyromètre est pas non plus hyper précis, on a des regards dans le four. C'est des petites ouvertures qui donnent directement dans le four, voilà, qui sont bouchées par des briques. Et à l'intérieur, on place des petites montres, en fait, ça s'appelle. C'est des petits cônes, des indicateurs de température. Et quand ils ont bougé, quand ils s'effondrent, et ben là, on sait vraiment à quelle température on est. Donc, on a ça qui nous indique en plus. C'est très important pour mener une bonne cuisson.
Et c'est chauffé au feu ?
Avec du gaz. Ouais. Avec 4 brûleurs à gaz. Ouais.
Le temps de cuisson est toujours le même. Là, pour une cuisson haute température, en four à gaz, je vais mettre 12 heures. Ouais, 12 heures de cuisson. Donc, je commence très tôt le matin. Et puis, toute la journée, il faut s'en occuper. Toutes les heures, il faut monter la pression. Il y a quelques étapes aussi. La réduction, ça c'est une technique qu'on utilise pour avoir des effets sur la terre, avoir des couleurs spéciales. Donc en fait, on va fermer un peu la cheminée du four et ça va empêcher l'oxygène de rentrer. Donc c'est une réduction d'oxygène. Et voilà, donc il y a plein de petites choses à faire comme ça tout au long de la journée. C'est complètement différent d'une cuisson en four électrique. Le four électrique, ben on appuie sur le bouton et puis on va se coucher. Moi, donc, j'ai travaillé pendant de longues années avec un four électrique. C'est très pratique. Voilà, j'ai voulu changer. Et donc, c'est complètement différent.
Alors, tes murs, ils sont quelle couleur ? Après, ça dépend où tu veux la mettre.
Eh ben, dans ma cuisine, c'est vert un peu. Il y a un peu du vert dans la cuisine.
Donc ça ressort un peu. Plus
et c'est un vert un peu comme ça.
Mais c'est peut-être plus le bleu ciel qui ressortira dessus.
Ouais, je pense que c'est plus...
Où oui. Tu veux la mettre, quoi.
Et dans le couloir, c'est un bleu vert. Et ça irait bien dans le couloir. Mais dans la cuve. Ouais, je vais prendre plutôt celle-ci. Allez. Je te la prends.
Ouais.
Allez. Elle est belle.
Elle
Est-ce que, Zélie, du coup, on peut prendre le petit miroir qui est dehors, pose,
oui.
là
Ouais, ouais.
Mais est-ce qu'on peut le prendre, mais ne pas le prendre
te, le réserver, le repasser, oui, te oui. le prendre et te le payer
ouais. J'adore la collection de bols comme ça. Là.
C'est vrai que moi aussi, j'adore.
Toi aussi, t'adores.
Ces petites granules.
Tu veux des petits bolinettes?
Bah ouais, je suis bien pris de petits bols.
Le rond miroir là, avec le petit donut attaché au miroir là. Ça ressemble vraiment à la balle.
Ah oui, une espèce de 8, il est joli, ouais.
T'as choisi le bleu
oui.
qui va bien
oui,
là.
Oui, moi j'aime bien ce bleu, oui.
Voilà, c'est joli. C'est
bon. On rajoute ça avec.
Ouais.
Vous pouvez retrouver mes pièces dans différentes galeries. Donc il y en a une à Rouen, chez la maison Gasparelli à Rouen, dans le quartier des Antiquaires. Il y a le studio COD à Lyon aussi, dans un quartier des Antiquaires aussi. Chez Perla Patram à Saint-Ouen, Paul Berthe. Il y a la galerie Terra Viva dans le Gard. Il y a aussi François-Xavier Bertrand à Bordeaux. Voilà. J'ai fait pas mal d'expositions depuis que je suis installée, hein, ça fait une quinzaine d'années maintenant. Chaque année, hein, y a des lieux intéressants. Une grosse expo que j'ai pu faire, qui m'a quand même pas mal apporté, c'était la Biennale de Valoris. Et à cette occasion, j'ai eu le prix artiste moins de 35 ans. Donc ça, c'était une belle surprise et puis quelque chose de très motivant pour la suite. Après des expos, là par exemple j'en fais régulièrement à la galerie Terra Viva dans le Gard. Je sors aussi sur les quelques marchés de potiers. Il y a le festival de la céramique du 11e arrondissement où je suis allée plusieurs fois. Il y a les journées de la céramique de Saint-Sulpice à Paris. Les tupiniers du Vieux Lyon aussi, ça c'est un beau marché de potiers qui est pas très loin de chez moi. Et puis voilà, j'ai participé à plein d'événements comme ça. J'ai eu des reportages qui ont été réalisés pour des magazines. Oui, j'ai eu plusieurs publications dans la revue de la céramique et du verre, un petit portrait. Voilà, des pièces en photo. J'ai eu aussi des contacts avec les magazines de décoration, Marie-Claire, Prima Maison, enfin ce genre de magazines, voilà, qui ont publié des photos de mes pièces dans des installations. Donc ça, c'est bien.
Un grand merci à Zélie ainsi qu'à toutes les personnes rencontrées lors de cet enregistrement. Zélie Roubi est installée à Saint-Jean-de-Muzolles, en Ardèche.
J'ai un site internet, zelieroubi.com.
Merci pour leur participation musicale involontaire à Hubert Félix Thiéfen, Thomas Fersen, Henri Dess, Stella Jang, Dimoné. Musique additionnelle, John Bartman.
Positive au monde.
Sur votre radio préférée, puis en podcast sur toutes les plateformes. Info sebdihl.fr. Sebdil.fr.
C'est fini.